je voulais partager avec vous ce matin n'est pas un thème des plus faciles, c'est un thème grave. Et à la suite du culte de dimanche dernier, il y a eu un don spirituel, un don prophétique qui parlait tout particulièrement à quelqu'un qui avait des intentions suicidaires. Et j'ai rencontré à la sortie du culte une famille qui est venue vers moi en me disant, voilà, nous sommes toute la famille. Et nous sommes en proie à la détresse, et nous ne savons plus quoi faire. Et toute cette semaine, j'étais chargé de cette discussion que nous avons eue ensemble, et j'ai eu à cœur de vous parler de ce thème qui est grave, le thème des suicides. Et j'ai intitulé ce message « Le suicide, parlons-en ». Et en introduction de cette thématique, je voudrais lire ce texte qui est un texte de David, le roi David, qui a connu énormément de détresse dans sa vie et qui laisse le témoignage de quelqu'un qui a placé son espérance et sa confiance dans le Seigneur. Le psaume 116. Voilà ce qu'écrit David, c'est un psaume, c'est un chant qui à ce moment-là est chanté, il dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a porté son oreille vers moi, et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. L'Éternel est grâce, il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. Éternel, garde ceux qui manquent d'expérience. Je t'ai affaibli, il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la fuite. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. Un témoignage de David qui a passé des heures sombres et qui a connu la détresse et qui s'est confié dans le Seigneur pour être secouru. J'ai à cœur donc d'approfondir le sujet, d'apporter des éléments de réponse au travers d'une perspective biblique. Dans l'Observatoire national du suicide, 10 000 personnes mettaient fin à leur jour chaque année en France. 27 personnes par jour. Et la question du suicide touche toutes les tranches d'âge, que ce soit les enfants, que ce soit les ados, les jeunes, les moins jeunes, toutes les tranches d'âge sont concernées, toutes les catégories sociales, jeunes, vieux, pauvres, riches. Et on compte en France environ 200 000 tentatives par an. Et le suicide serait la première cause de décès chez les 14-19 ans. Et ces dernières années, le monde agricole a particulièrement été exposé. Un agriculteur se suicide tous les deux jours. Alors les statistiques, lorsque je m'y suis plongé, m'ont donné le vertige. Mais derrière les chiffres, il y a des personnes, il y a des hommes, des femmes, des familles, des proches, des amis, des voisins et des collègues. Qui fait que nous sommes tous, à un degré ou à un autre, concernés par la question. Je pense à cette jeune fille, j'étais tout jeune pasteur, jeune fille de 22-23 ans. Je l'ai ramenée un soir après une réunion dans la voiture, juste avant de rentrer chez elle. Elle me dit, Michel, si tu as un moment, j'aimerais bien partager un peu un temps avec toi, j'ai des questions, etc. Mais il n'y a pas de d'urgence. Depuis, j'ai appris que quand quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas d'urgence, que c'est sérieux. Et quelques jours après, cette jeune fille avait mis fin à ses jours. J'ai mis un mois à me remettre de cette situation. Je me suis culpabilisé. Si tu avais écouté, si tu avais été assez sensible, si tu avais été à l'écoute, si, et si, et si. C'est terrible. Et je me suis promis que quand quelqu'un me dirait qu'il n'y a pas d'urgence, je serais un peu plus réactif et je considérerais la chose. c'est l'acte de se donner volontairement la mort. C'est un acte de grâce qui traduit une profonde détresse intérieure, un mal-être, le mal de vivre. Alors, il y a plusieurs degrés de gravité. Vous avez d'abord un premier degré qui est ces idées suicidaires qui viennent aux uns aux autres, en droit du mort. Avec le niveau de gravité, c'est quand il y a, on appelle la crise suicidaire, lorsque vous commencez à échafauder et à préparer dans votre esprit un projet suicidaire. Et puis finalement, le troisième degré, c'est le passage à l'acte qui peut être suivi ou non du décès. Alors vous allez dire, certains, pourquoi parler à l'Église du suicide à terme aussi grave? Pourquoi est-ce que le pasteur nous entretient de cette question? Mais parce que je le disais tout à l'heure, à un degré ou à un autre, nous sommes tous confrontés à cela, à un moment ou à un autre. Mais aussi parce que la mission de l'Église, ce n'est pas seulement de chanter des beaux cantiques ou de faire de belles prières. La vocation des chrétiens que nous sommes n'est pas seulement de se retrouver entre nous. Nous avons beaucoup de joie à nous retrouver, à nous voir, nous parler, nous entretenir. Ce n'est pas seulement d'écouter de beaux sermons, mais la vocation de l'Église et des chrétiens, c'est d'apporter un message d'espérance à ce monde qui en a tant besoin. C'est d'apporter des paroles d'espoir. C'est de faire connaître un vrai Dieu qui a un vrai message d'espoir, un vrai message de consolation. Et c'est la raison pour laquelle nous ouvrons la Bible et nous lisons la Bible et nous partageons la Bible. Une parole de Dieu peut faire basculer notre vie dans le bon sens et dans la bonne direction. Et nous voulons lire la Bible parce qu'elle est un manuel de vie remarquable. Ses conseils sont pertinents et d'une grande actualité. La parole de Dieu est pleine de sagesse. Elle parle de tous les sujets possibles, de tous les sujets qui peuvent nous concerner. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que rien n'est tout. Rien. Elle nous parle touche, elle nous parle vrai. Et elle nous dit ce qui nous concerne. Et là, on peut se poser la question ce matin, mais qu'est-ce qui peut bien pousser des gens à abréger leur temps? Que se passe-t-il dans la tête de quelqu'un qui vient pour finir? Quelles sont les causes? Quels sont les éléments déclencheurs? Et la Bible apporte des réponses. Et ce matin, je voudrais, avec vous, offrir le regard pastoral. Je ne suis pas psy, et les psys ont également des réponses et des pistes à proposer. Et je pense que le théologien et le psy ont tous les deux, dans leur discipline, et sont complémentaires, apportent des réponses et des directions pour la chose. Ce matin, je vous propose le regard théologique, le regard de la parole de Dieu, le regard pastoral, les exemples bibliques. Et donc, une première situation, et on peut comprendre qu'il y a des causes profondes dans des maladies incurables, dans les souffrances intolérables, une situation de handicap, les conséquences, par exemple, d'un accident. Et la Bible parle d'Abimélec. Et je vous donne les références pour que vous puissiez, chez vous, vérifier et approfondir le sujet. Abimélec dans Juges au chapitre 9 et au verset 54. On est là dans une bataille, et c'est au cours d'une bataille qu'il est gravement blessé, il souffre physiquement et il refuse de vivre avec la douleur. Il demande à son porteur d'armes, de mettre fin à ses souffrances. C'est un cas de suicide assisté. Et là, vous voyez, on est déjà en plein dans l'actualité. Et la question n'est pas simple, évidemment. On n'a pas de recette, il n'existe pas de réponse facile. Il y a là une grande complexité. Des maladies incurables, des souffrances intolérables. Une deuxième situation de dépendance, d'addiction, parfois c'est la toxicomanie ou bien les abus en tout genre qui peuvent conduire quelqu'un à mettre fin à ses jours. Un suicide à petit feu, c'est le cas de Zimri. Dans le premier livre des Rois, chapitre 16, verset 18, il est mort à cause du mal qu'il s'est infligé à lui-même et du mal qu'il a infligé aux autres. Il meurt dans un incendie qu'il a lui-même provoqué parce qu'il était convaincu qu'il n'y avait plus d'issue à sa situation. Il y a là un dénominateur commun à tous ceux qui abrègent leur temps, c'est qu'ils sont convaincus que c'est la seule solution, qu'il n'y en a plus d'autre, qu'il n'y a plus d'issue. La dépression, l'épuisement, le désespoir. C'est le cas d'Élie dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Élie est un croyant, un leader, c'est un battant, quelqu'un de brillant qui a accompli de grandes choses. Mais à un moment donné, il est déstabilisé par la pression qu'il a accumulée au cours de son service. Il n'a plus de perspective, il ne voit plus d'issue, il est épuisé, il est dépressif, il est incapable de voir une issue de sa situation, il ne voit pas le bout du tunnel. Et là, il réclame la mort. Alors vous allez me dire, je suis croyant, est-ce que c'est normal d'être ainsi accablé par des idées suicidaires? Mais vous avez la réponse. Le prophète Élie en personne. Même le croyant reste un être humain, avec ses limites, avec ses fragilités. Et son entourage le considère comme quelqu'un de fort, de solide. Mais en réalité, il est vulnérable émotionnellement, psychologiquement, psychiquement. Et lorsque le Nouveau Testament parle d'Élie, dans Jacques au chapitre 5, le texte nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Et là, nous pouvons nous y retrouver dans ces textes. La dépression a beaucoup de visages. Et les personnes dépressives ne sont pas forcément tristes ou abattues. Il existe des idées fausses par rapport au suicide. Une personne joviale est à l'abri du suicide. Qu'est-ce que vous en pensez? Sous un extérieur jovial peut se cacher une grande tristesse. Il y a quelques années, j'étais aux États-Unis, lorsque, à la télévision, aux nouvelles du soir, on a rapporté le suicide de cet acteur qui s'appelle Robin Williams. Ça vous dit quelque chose? Madame Doubtfire, pour ceux qui sont un peu initiés. Et aux États-Unis, il a fait beaucoup de films qu'on n'a pas traduits en France. Il a fait beaucoup de films dans lesquels il apparaît comme un clown, c'est un pitre, un clown. Mais faire le clown, c'est une façon de pallier la souffrance qui est à l'intérieur. Nous avons un voisin qui s'est donné la mort l'année dernière et toute la rue, nous avons été affectés. Le matin même, encore, c'est un bouton, un décideur, un fonceur, un travailleur. Le matin même, encore plusieurs avaient parlé avec lui. Et le soir, il y a eu ce défilé dans notre rue, ce défilé de gendarmes, de pompiers, de médecins, d'urgentistes. Et c'était dramatique. Puis on s'est regardé les uns les autres, on s'est dit qu'on avait su. Et parfois, les gens s'en vont sans prévenir. Il y a des situations d'échec, de honte, de faillite. La Bible parle de Saül dans le premier livre de Samuel, chapitre 31, verset 4. Cet homme a tout perdu par sa propre faute. Il n'a pas su écouter le conseil de Dieu à un moment donné. Et il a tout gâché. Il n'y a plus de succès à un moment donné, plus de victoire. Et Dieu s'est même retiré de sa vie. Alors il s'est tourné vers l'occultisme, vers le spiritisme, puisqu'il est allé voir ce qui évoque les morts. Et mes amis, lorsque vous invitez la mort dans votre vie, elle va se manifester. Et c'était le cas pour Saül. Il s'est jeté sur son épée pour sauter. La vie, dans beaucoup de cas de suicide, il y a aussi comme une espèce de combinaison, un adversaire qui est là et qui cherche lui-même à vous ôter la vie. Et puis, cinquième expérience, c'est le sentiment de rejet, de solitude et d'inutilité. Samuel, chapitre 17, verset 23. C'est un proche conseiller du roi David. Un homme brillant, d'une grande sagesse. Et ceux qui mettent fin à leur jour ne sont pas forcément des gens déséquilibrés. Des gens brillants, intelligents. Et ses conseils étaient judicieux, pertinents. Mais un jour, son conseil a été rejeté. Il est rentré chez lui et il s'est pendu. Le sentiment d'être rejeté, d'être devenu inutile, d'être isolé, peuvent être des éléments déclencheurs. L'année de la canicule, ici en France, en 2003, les fortes chaleurs ont fait près de 15 000 victimes. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans les maisons de retraite, près de 4 000 personnes n'ont pas été réclamées par des proches. Vous avez appris ça, vous saviez. C'est impensable. Solitude. C'est terrible. Mais il y a, d'ailleurs, la solitude, c'est une des premières causes évoquées par SOS Amitié. Et j'aimerais ce matin rendre hommage à cette association qui œuvre en France depuis plus de 50 ans avec des écoutants bénévoles, font un travail remarquable. Et leur mission, c'est de prévenir justement le suicide. SOS Amitié, bravo. La culpabilité, mais la coupe, c'est de ma faute. Et là aussi, c'est l'histoire du bâton qui coule par ma faute, l'histoire de Jonas, chapitre 1er. Jonas demande au marin du bateau de le jeter à la mer et de mettre fin à cette tragédie, parce qu'il est convaincu que ce qui arrive là, cette tempête, cet ouragan qui s'abat sur le bateau, ce bateau qui commence à sombrer, à couler, c'est de sa faute. Alors quelqu'un dira peut-être, et là aussi c'est une idée fausse, le suicide, c'est un choix. Mes amis, c'est plutôt un non-choix. Un non-choix, parce que la personne croit à tort qu'il n'y a plus d'autre possibilité pour arrêter de souffrir. C'est l'histoire d'un père de famille qui a tout perdu au jeu. Ce sont des parents dont les enfants tournent mal et qui sont accablés par la culpabilité. Ce sont des enfants qui font des films persuadés que c'est à cause d'eux que leurs parents se sont séparés. Ça peut être aussi un choc brutal. Un accident, une catastrophe, un drame. C'est l'histoire du geôlier de la ville de Philippe, le gardien de prison, dans Actes chapitre 16, verset 27. La prison se met à trembler au cours de la nuit, les murs s'écroulent, les portes s'ouvrent, et à cette époque-là, nous sommes à l'époque romaine, lorsque vous ne teniez pas votre poste, vous risquiez de toute façon la peine capitale. Donc, croyant que les prisonniers s'étaient évadés, il tire son épée et allait se tuer. Et Paul dira ceci, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Et si j'ai bien entendu le don prophétique ce matin et la parole qui a été lue autour de la table de la Sainte Cène, nous sommes ensemble, nous sommes une famille. Nous sommes là non seulement pour faire confiance au Seigneur, pour espérer en lui, mais nous sommes là aussi pour nous soutenir les uns les autres, pour nous porter les uns les autres, pour être proches les uns des autres. Parce que tôt ou tard, de près ou de loin, nous sommes tous concernés. Tous. Nous ne pouvons pas nier ce fait. Le texte nous dit qu'il avait une femme et des enfants. Mais devant une telle catastrophe soudaine, une chute brutale, on peut perdre les raisons. C'est ce qui arrive. Il y a des mots qui peuvent nous percuter comme un tremblement de terre, cancer, sida, chômage, divorce, licenciement. Ça vient vous percuter, parfois sans qu'il y ait. Et lorsque vous apprenez la nouvelle, c'est comme un tremblement de terre. C'est lorsque je suis avec des personnes qui vivent ces drames, c'est toujours pareil, c'est comme si le ciel leur tombait sur la tête. mais comme si le plancher tout d'un coup s'effondrait et qu'ils étaient comme assis. Et David a le mot approprié pour dire j'étais en train de sombrer comme dans un gouffre. Mais il y a aussi les remords associés à la culpabilité. C'est l'histoire de celui qui croit que sa situation est irréversible. On ne peut rien y changer. Et là aussi, je crois que c'est un mensonge. Un mensonge qui est encouragé par notre adversaire. On ne peut rien faire. Pas de solution. Je suis perdu. C'est fini. Voilà ce que se dit dans sa tête celui qui pense au pire. C'est le cas de Judas. Dans Matthieu, au chapitre 27, au verset 5. Après avoir trahi Jésus, Judas se pend pour mettre fin à sa souffrance intérieure. Rongé par la culpabilité, rongé par le regret, rongé par le remords, il veut en finir avec sa détresse. Et je crois que là, pour le cas, quelqu'un lui a donné un coup de main. C'est le diable. Parce que quand on lit tout le contexte dans lequel il a évolué, Jean chapitre 13, verset 2 et verset 27, les textes bibliques nous disent que Satan entra en lui. Terrible. C'est terrible. Et certains sont passés et sont poussés au suicide par une influence obscure, par la puissance des tests. Et beaucoup de rescapés m'ont expliqué en disant, mais j'étais poussé par une force invisible, obscure. J'ai entendu une voix, jette-toi dans le vide. Et par la grâce de Dieu, au dernier moment, j'étais secouru. Alors, il y a d'autres situations aussi, mais on a évoqué ici les principales. Il y a souvent des idées fausses associées à la notion de suicide. Vous savez, par exemple, que ce qui dit les personnes qui en parlent ne le font pas. Est-ce que c'est vrai? En fait, les trois quarts des personnes décédées par suicide l'avaient annoncé. Je crois qu'il ne faut jamais minimiser les intentions des personnes qui pensent à l'acte. Je crois que la question vraiment du suicide doit être prise au sérieux. Donc, on pense que le suicide, c'est une maladie. Non, mes amis, le suicide n'est pas une maladie. C'est un comportement qui traduit avant tout un mal de vivre, un mal-être. J'ai rencontré cette semaine une jeune fille qui m'a dit, mais c'est mon mal-être qui m'a poussé à vivre. Elle a vécu une conversion à Jésus-Christ remarquable. C'est un profond désespoir qui nous pousse dans cette direction. Quelqu'un dira peut-être, mais le suicide, c'est héréditaire. Non, le suicide n'est pas héréditaire, il n'existe pas de gène du suicide. C'est un comportement qui peut éventuellement se reproduire dans une histoire familiale à travers des générations, c'est possible. Mais ce n'est pas héréditaire. On peut poser la question aussi, comment est-ce que je peux détecter si quelqu'un pense au pire? Y a-t-il des signaux qui pourraient nous alerter? Et là, je me tourne vers le centre de prévention du suicide qui nous donne quelques pistes. Il y a des messages directs qui peuvent nous parvenir. Par exemple, quelqu'un qui vous dira, je vais en finir. Ou bien, c'est trop dur, je n'en peux plus. Ou bien, quelqu'un qui vous dira, la vie n'en vaut plus la peine. Je ne m'en sortirai jamais. Je voudrais m'endormir pour toujours. Mais il y a aussi des messages indirects. Vous seriez mieux sans moi. Quel mensonge. Terrible. Ma vie est inutile. J'ai fait mon testament. Je vais mettre mes affaires en ordre. Ce sont des phrases qui doivent aussi nous interroger. Il y a des comportements qui peuvent alerter. L'isolement, le retrait, le décrochage scolaire, un désinvestissement professionnel, une consommation abusive d'alcool, de médicaments, le fait de se débarrasser subitement de toutes ces affaires sont des comportements qui peuvent nous interroger. Revenons maintenant un peu à la théologie, parce qu'il y a des questions aussi qui se posent pour nous, chrétiens. Quelle vision Dieu a-t-il du suicide? Que dit la Bible? Que fait-il penser d'un chrétien qui se suicide? Ce sont des vraies questions. Alors, je n'ai pas la prétention de vous apporter toutes les réponses et je ne viens pas avec vous avec des recettes. Et la solution miracle, je ne l'ai pas. Mais voilà ce qu'on peut dire. À l'appui de la parole de Dieu. C'est que la vie humaine est un don de Dieu et lui seul peut en disposer. Aucun passage biblique n'exprime une autorisation de se donner soi-même la mort, ni l'assistance au suicide. Le suicide est un acte grave qui va à l'encontre du sixième commandement. Exode chapitre 20. Deutéronome au chapitre 5 nous disent « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et le suicide est un meurtre. Et le meurtre, soyons clairs, c'est un péché. Un péché, c'est quelque chose qui est contraire à la pensée de Dieu. C'est une transgression. On va au-delà de ce que Dieu dit. On est à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Quelqu'un qui met fin à ses jours, gâche, malheureusement, son potentiel de vie. Il détruit en quelque sorte ce que Dieu avait prévu et préparé pour lui. Dieu est le créateur de toute vie. Il nous invite à la respecter et à la protéger. C'est précieux, une vie. On n'en a qu'une. C'est précieux. Et celui qui abrège son temps prive la société de ce qu'il aurait pu lui apporter. Saint Thomas d'Aquin, dans son ouvrage « Somme théologique », écrit ceci « Il est une injustice envers la société à laquelle toute personne appartient. » Et quand notre voisin est parti, on s'est dit « Il nous a privé de quelque chose, il nous a privé de sa présence, il nous a privé de tout le bien qu'il aurait pu apporter à tout notre voisinage. » Ce qui fait dire à Éric Sanglier, le fondateur du Top Chrétien, le premier site internet chrétien francophone au monde, merci d'exister. Vous avez déjà entendu cette phrase? Merci d'exister. On n'y peut rien. C'est Dieu qui est notre créateur. Mais merci d'être là aujourd'hui. Merci de venir. Merci d'être à mes côtés. Merci de faire partie de cette grande famille. Le suicide ne signifie pas nécessairement un désir de mort, mais bien souvent un appel à la vie, à une vie autre. Et Dieu le sait. Et je crois que Dieu, dans le cœur est assez grand et dans lequel il y a une place pour chacun d'entre nous aujourd'hui, Dieu sent cela, il voit au-delà des apparences. La Bible nous dit que l'homme regarde aux apparences, il regarde ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur, il voit au-delà de l'acte en lui-même. Il voit les motivations, il voit la détresse intérieure, il voit le mal-être, il voit le mal de vivre. Et il cherche à apporter sa solution, sa réponse. Alors qu'en est-il du chrétien qui se suicide? On va lire un texte qui est important pour nous. Ce texte se trouve dans Romains au chapitre 8 et au verset 35. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Écoutez bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? L'angoisse, c'est ce que vivent ceux qui traversent ce genre de situation. La persécution, la faim, le dénuement, etc. Au verset 38. En effet, j'ai l'assurance ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui est puissant et qui est percutant. Percutant. Si aucune détresse, si aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, un chrétien qui se suicide, qui est aussi une créature, alors même le suicide ne peut pas le séparer de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est mort pour tous nos péchés. Et si un vrai chrétien, dans un moment d'attaque spirituelle, de défaillance, de détresse, se suicide, même ce péché est couvert par le sang de Jésus. Je répète, même ce péché est couvert par le sang de Jésus. 1 Jean, chapitre 3, verset 20. Lorsque notre cœur nous condamne, la Bible dit, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il nous connaît. Ce sont des paroles fortes qui sont percutantes et qui apportent une véritable réponse, un véritable message d'espérance et d'espoir. Nous ne sommes pas perdus. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens recherchent ce que ce Dieu peut leur donner. Blaise Pascal, il disait, il y a dans le cœur de l'homme un grand vide qui a la forme de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons ce matin à vous tourner vers Dieu, à vous tourner vers votre Créateur, à accueillir dans votre vie le Christ vivant. Vous voyez, je pense à cette jeune fille qui, cette semaine, est venue, qui me disait, c'est mon mal-être qui m'a poussé vers Dieu. Et si c'était votre mal-être qui, ce matin, était comme une pédagogie de Dieu pour vous pousser dans le bras de Dieu, vous pousser dans le cœur de Dieu, comme on l'a entendu au travers du don spirituel. Oui, je crois. J'ai prié pour cette matinée. Je porte avec moi toute cette semaine ce message. J'y ai beaucoup réfléchi, beaucoup pensé. Et je crois que ce matin, le Seigneur va vous apporter une réponse à laquelle peut-être vous n'y attendez pas. Mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et son aide et son secours sont à votre disposition et à votre portée. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire la morale, on n'est pas là pour donner des recettes, on n'est pas là pour apporter des solutions miracles. On est tous là devant le Seigneur, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous vous l'avons chanté tout à l'heure. C'est par grâce que nous sommes là et nous dépendons tous les uns comme les autres de sa grâce. Je vais demander aux musiciens de s'approcher et de venir sur les stades pendant que je termine ce message. En vous disant que nous avons un Dieu vivant, il agit encore aujourd'hui. Un Dieu qui nous propose la vie en abondance en Jésus-Christ. Jésus qui lui-même a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et je pense à cette parole forte qui était des chants qui étaient chantés par le roi David, au psaume 33, lorsqu'il dit, le regard de l'Éternel est sur ceux qui le respectent, sur ceux qui espèrent sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Le psaume 34 qui dit, je cherchais l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est réunis dans le bois, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et le sauve de toutes ses détresses. Le psaume 18, je m'écris, loué soit l'Éternel. La puissance de la prière, la puissance de la louange et de l'adoration, le chant, une façon de nous approcher de Dieu. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enchaîné. les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les lieux de séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Il a incliné le ciel et il est descendu. Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu à notre rencontre. Il est mort sur la croix. Il a donné sa vie volontairement pour le pardon de nos péchés. Il est venu traiter la cause et la racine même de notre mal-être. Dans Pierre chapitre 2, Jésus a lui-même porté nos péchés de son corps, dans son corps, à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre vie.